sûrement de chlorophylle. Moi, quand on venait ici, c'était mes vacances, ils étaient là, mes congés payés. Ça fait 25 ans, moi, j'ai pas vu de campagne. Je suis obligé d'aller au Castorama, rayon jardinage, pour voir un petit peu de verdure. Mais ce qui me manque le plus, moi, c'est la fraîcheur. J'étouffe.
Mesdames et messieurs, si vous voulez vous rapprocher, merci.
Chers collègues élus,
c'est un critère d'économie. Et bienvenue donc à vous tous ici, sur cet espace de la Maison d'éducation populaire.
Dans la République, la liberté, la fraternité, l'égalité.
Mesdames et messieurs, bonjour à toute inauguration. Discours.
Choisir la vie, choisir un boulot, choisir une carrière, choisir une famille, choisir une putain de télé à la con, choisir des machines à laver, des bagnoles, des platines laser, des ouvre-boîtes électroniques, choisir son survêt et le sac qui va avec, choisir son canapé avec les deux fauteuils, le tout à crédit avec un choix de tissu de merde, choisir de s'affaler sur ce putain de canapé et se lobotomiser au jeu télé en se bourrant de mal d'eau.
Ciao troupeau, chaque semaine de 18h à 19h sur Radio Centrafrique.
Ne me regardez pas, j'existe plus. C'est pas moi, c'est mon fantôme qui passe. Adieu.
Lutte sociale, info du pays, autodéfense populaire et politique politique. Il est l'heure de quitter le troupeau et de rejoindre la meute.
Yeah, yeah, yeah! T'es bien à l'écoute de Radio Saint-Taf, la radio locale qui te pique une taf. Et qui, après 35 ans d'existence à défendre les valeurs libertaires des habitants du Sud Aveyron et des autres, habitants ou pas, ne s'emmerde plus à mettre des fioritures dans ses formules, même celles qui sont en l'air, et qui préfère désinguer des toitures plutôt que de remplir des formulaires. Bonjour à tous, bienvenue dans Ciao Troupeau. Dans cette émission, on danse le cha-cha-cha au trou comme sur le pot. 696 jours d'état d'urgence, bienvenue dans le pays où le nouveau président Emmanuel Macron propose des manuels scolaires de maths qui utilisent des migrants comme base de calcul pour résoudre un problème et où on trouve ça normal. 155 jours sous la présidence d'un banquier qui ment comme il respire en annonçant... Ah non, qui ment comme il respire, point. 1145 jours de crise, mi-figue, migratoire, et les médias ne nous racontent encore que la moitié de la vérité. Et 125 mois, soit 3750 jours de crise économique, et on appelle toujours ça une crise. Bref, t'es bien à l'écoute de Radio Saint-Tache, la radio qui taffe. Cette nouvelle émission qui est apparue sur vos ondes fête quant à elle son premier anniversaire, et on peut féliciter Clément et Nico pour avoir créé et tenu ce format. Un format bien décalé, déjanté, qui veut se démarquer de la bonne pensée et qui se paye cette semaine une spéciale éduc pop à l'heure où Saint-Taf se paye une maison, nous on fera qu'une édition. La toute nouvelle maison de l'éducation populaire, la MEP, vient d'être inaugurée, comme vous le savez. Et qu'est-ce que c'est que ce truc-là, l'éduc pop? Qu'est-ce qu'ils vont en faire de leur maison? C'est la question qu'on se pose à Ciao Troupeau.
Bienvenue hors du troupeau.
L'équipe municipale s'est dit, on va essayer d'incarner dans un lieu cette volonté d'unité d'une part et cette volonté de partage des valeurs fondamentales qui sont la liberté, les valeurs de la République, la liberté, la fraternité, l'égalité. Et la première idée, c'était de dire comment on va appeler ça. Donc on n'a pas aujourd'hui donné des noms. Des noms, ce lieu-là méritera bien sûr des noms, mais ces noms-là qui incarnent les valeurs de la République, il n'en manque pas. On n'aura pas de difficulté à trouver. Dans le premier temps, on a donné un nom générique, la Maison de l'éducation populaire. Alors ça peut paraître un peu prétentieux, hein, mais je crois que ce mot-là a existé au début du siècle. Hein, dans les périodes où des gens se sont organisés dans leur diversité pour faire vivre un certain nombre de valeurs ensemble. Et ça s'appelait éducation populaire. Quelle était cette appellation a été donnée ou par le secteur, disons, laïque, ou par le secteur des religions, hein, qui ont concouru à construire quelque chose, un vivre ensemble qui aujourd'hui... fort heureusement existe encore et fait que nous tenons bon dans la tempête. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on a voulu créer ce lieu-là. Et ce lieu-là, pour nous, il veut dire quoi? Il veut dire d'abord, c'est pas que mettre physiquement des gens ensemble, c'est faire en sorte qu'ils se croisent, ils se parlent, ils se reconnaissent, ils ont envie de se revoir. C'est essentiellement ça, ce lieu-là. C'est un lieu de passage et un lieu de rencontre d'abord. Après, c'est un lieu, dans un deuxième moment, d'activité, qui est un lieu d'un certain confort. Tout le monde en convient. Hein. Même si on a la nostalgie des anciens lieux où vous étiez, je vois quand je viens là, beaucoup me disent oh, « Monsieur le maire, c'est beau, c'est confortable, c'est bien, on est content, etc. » Mais c'est pas que ça, voilà. Donc, dans notre esprit, le rôle qu'on a voulu assigner à cette structure, c'est ça. Se rencontrer, se reconnaître, se respecter, vivre ensemble, partager, se soutenir. Et en fait, quand on le résume de façon plus globale, c'est les fondements des lois associatives en France. C'est ça. C'est ça.
Et oui, les fondements des lois associatives en France, vous venez d'entendre Monsieur Fauconnier, le maire de notre petit village, à cette inauguration en grande pompe de la maison de l'éducation populaire. On a eu des élus, des petits fours, une plaque à dévoiler, un joli pupitre, des médias avec des micros, des caméras. Et merci aux députés et aux élus, on se congratule. Mais quand même très peu de représentants en fait, des assos, très peu de monde d'ailleurs, et puis il manquait le peuple, non, maison d'éducation populaire, il manquait un petit peu des gens. Il y avait quelques représentants d'assaut, mais ils étaient quand même pas très nombreux. Alors du coup, ça faisait des formules de politesse, et puis ça s'applaudissait un petit peu dans tous les sens. Alors nous, on nous a demandé à Radio Saint-Ave de participer à cette maison d'éducation populaire, ce qu'on va faire avec plaisir, parce que quand même, à la base, les intentions affichées, elles sont quand même assez louables, quoi. C'est d'essayer de regrouper les associations. Mais derrière, et c'était un petit peu en fil rouge de tous les discours qui ont pu avoir lieu, c'est aussi un petit peu des économies budgétaires, puisque un local pour toutes les associations de Saint-Ave, c'est quand même, ça coûte moins cher qu'un local par association, ou bien alors voilà. Donc c'est aussi des économies budgétaires qui ont été affichées. Alors nous, on s'est dit que cette maison d'éducation populaire, on se sentait pas vraiment concerné. J'ai l'impression qu'on n'est pas la seule association de Saint-Afrique à pas vraiment se sentir concernée par cette maison. Et d'ailleurs, c'est peut-être parce que ça a été un peu initié dans le mauvais sens. C'est-à-dire que, pour moi, en tout cas, une maison de l'éducation populaire, ça devrait être initié par les associations, par le peuple ou par des groupements d'individus, et ensuite soutenu par la mairie, et non pas l'inverse. Alors du coup, on s'est dit qu'un petit chat au troupeau sur l'éducation populaire pour en parler, ça pouvait être chouette. Et du coup, il y a du monde un peu dans les studios. Merci Antoine pour l'intro. Ouais.
Merci à toi Clément, avec plaisir. Et je te rejoins complètement dans l'analyse que tu fais de la présentation de cette initiative qui a été effectivement un peu faite dans le mauvais sens à mon avis, et je crois que c'est l'amalgame qui a souvent été fait de prétexter tiens on va faire ensemble, et puis en fait ça va très bien de tous faire ensemble, on en profite pour faire des économies. Et en fait elle a été initiée dans l'autre sens, cette initiative dont tu parles, à une époque pas du tout révolue. Moi c'était déjà Radio Saint-Eph, où il y avait un certain nombre d'associations, dont aussi le café associatif, pas mal à l'initiative du café associatif Le Lieu Dit, de proposer de mutualiser des locaux pour, en fait, les mêmes raisons, économiser un peu des sous et partager dans les couloirs et les escaliers, de la structure qui pourrait héberger ces différentes associations, profiter de la richesse du partage et des savoirs entre les gens qui ont, du coup, chacun différentes spécialités, différentes sensibilités selon les associations auxquels ils sont affiliés. Et on peut pas dire, il me semble pas, qu'il y ait eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de soutien public ou municipal pour aller dans ce sens. Je sais qu'il y a eu des travaux pour rechercher déjà un local qui ont pas abouti à cause du prix. Alors donc, en fait, voilà, quand l'initiative part dans ce sens-là, on entend un peu facilement, oui, les associations ont du mal à se mettre d'accord, et du coup, un projet associatif à l'échelle d'une commune ou d'un territoire, d'une communauté de communes ou même d'un département, c'est très compliqué à mener. C'est souvent, d'ailleurs, du coup, les pouvoirs publics plutôt qui coordonnent ce genre de choses. Et en fait, pour à peu près les mêmes raisons, à savoir des coupes budgétaires, l'institution propose une formule à son tour, les associations sont pas si... sont pas si consultés que ça, on répond pas à beaucoup de demandes, on se rend compte que, en fait, voilà, c'est aussi pour faire des coupes budgétaires, on était peut-être pas complètement dans le faux.
Ok, et du coup, ben, revenons un peu sur cette histoire d'Éduc'Pop, justement, on se demandait, enfin on va essayer de faire en une heure un peu pas le tour de la question de l'éducation populaire, mais en tout cas, juste la présenter, savoir d'où ça vient cette idée d'éducation populaire et pourquoi justement c'est un peu abusif. Et d'ailleurs, c'est marrant hein, parce que Fauconnier le disait lui-même que c'est prétentieux en fait d'appeler cette maison la maison de l'éducation populaire. Et du coup, voilà, on voulait revenir un tout petit chouïa au début de cette émission sur l'histoire de l'Éduc'Pop.
Absolument, bah il a quand même bien révisé son discours, oui. M. Alain Fauconnier.
Il confondait un peu les lois de 1901 et celles de 1905, mais bon, ça c'est laïcité oblige, etc. Bon, voilà. Mais bon, c'était assez rigolo.
Ah oui, Aline, assez. Oui. Non, alors moi je suis pas du tout un spécialiste de l'éducation populaire. La plupart d'entre vous me connaissent, au moins à travers les ondes de Radio Sainte-Afrique. Et par contre, j'ai pris un peu de temps cet après-midi pour aller regarder sur quelques sites internet qu'est-ce que c'était que cette éducation populaire, tant sous forme de concept que de... Donc en fait c'est une notion qui a une histoire qui est longue, qui est vraiment très longue, et du coup je voulais proposer de commencer un peu par le début qui remonte donc au XVIIIe siècle, ça fait 1700 et des poussières. Donc à l'époque des Lumières, on fait communément remonter l'origine de l'idée d'une éducation populaire à ce moment-là. Dans un contexte de lutte contre l'obscurantisme et l'emprise de l'Église catholique en France, se diffuse l'idée de la nécessité d'une éducation de toutes et tous, et en l'occurrence du peuple, par le peuple et pour le peuple. Ce sont les prémices de l'idée d'éducation d'action directe. En 1992, en pleine révolution, Condorcet remet à l'Assemblée législative un rapport sur l'instruction publique dans lequel on peut lire, alors attention c'est un peu du vieux français là, faut vous accrocher, mais « Tant qu'il y aura des hommes qui n'obéiront pas à leur raison seule, qui recevront leurs opinions d'une opinion étrangère, en vain toutes les chaînes auraient été brisées, en vain des opinions de commande seraient d'utile vérité. Le genre humain n'en resterait pas moins partagé entre deux classes, celle des hommes qui raisonnent et celle des hommes qui croient, celle des maîtres et celle des esclaves. » Alors, si la Révolution française, comme chacun sait, des fois on se demande, mais comment c'est possible que... Donc si elle n'a pas abouti à une émancipation désexploitée, se limitant à subsister au pouvoir de l'aristocratie, celui de la bourgeoisie capitaliste, elle a néanmoins permis le brassage d'un grand nombre d'idées émancipatrices, dont notamment celle de Condorcet, c'est pourquoi je la citais. Elles font leur chemin. Au XIXe siècle, marqué en France ce XIXe siècle par les révolutions de 1830, 1848 et 1871, qui sont principalement des courants anarchistes, il me semble.
Ouais, à peu près, ouais, on peut faire le raccourci comme ça, histoire de pas y passer une demi-heure.
Au cours de ces révolutions, naissent trois courants qui pratiquent, chacun à leur façon, une forme d'éducation populaire. Un courant laïque républicain, un courant chrétien social et un courant ouvrier et révolutionnaire. Alors le courant laïque républicain, il se revendique contre l'obscurantisme. Notamment, il donnera bien plus tard naissance à la célèbre Ligue de l'enseignement de Jean Massé.
Qui existe toujours.
Pas Jean Massé, la Ligue de l'enseignement.
Merci.
Le courant chrétien social, qui lui est plus axé contre la misère, les chrétiens, dont les héritages seront les jeunesses agricoles chrétiennes, jeunesses ouvrières chrétiennes, ou le journal Le Sillon, fondé en 1894 par Marc Sangnier, qui devient dans les années 1900 l'organe d'un vaste mouvement qui prend une tournure hétérodoxe vis-à-vis de la doctrine de l'Église, notamment contre l'exploitation des femmes. Il sera finalement condamné par le pape Pie X pour modernisme. Il s'autodissoudra en 1910. Mais donc même chez les chrétiens modérés, il y a des courants voilà, de pensée progressiste, trop un peu peut-être. Le dernier courant de ces trois grands courants, c'est le courant ouvrier et révolutionnaire, qui lui donc est spécifiquement contre le capitaliste, et qui lui verra au travers de son mouvement apparaître dans les années 1990, comme exemple, les bourses du travail créées par les municipalités pour réguler le marché de l'emploi, mises en place par les syndicalistes révolutionnaires qui cherchent à les transformer en base d'une contre-société prolétarienne, en les dotant de services d'entraide, de bibliothèques, de cours du soir où l'on étudie l'économie, la philosophie, l'histoire. Dans les années 1920-1930, alors voilà, ça c'est vraiment les trois grands courants.
C'est ça.
Donc ça remonte.
Grosso modo, il y a les anards, les chrétiens humanitaires et voilà. Et les communistes, quoi, grosso modo.
Et donc chacun de ces courants a laissé des traces un peu plus tard voilà, dans l'histoire. On arrive ensuite à un moment de l'histoire qui est donc le début du XXe siècle, qui est brassé par les grandes guerres. Donc il y a plein de. Donc là, je vais aller beaucoup plus vite parce qu'il se passe pas mal de choses en fait à cette époque-là, mais qui sont plus dans la forme, qui concernent en fait peu. L'idée était déjà déclinée est dans les courants de pensée. Le problème, c'est qu'après cette Seconde Guerre mondiale, dans les années 20-30, après cette Première Guerre mondiale, pardon, l'éducation populaire devient peu à peu un secteur d'activité à part entière. Et donc là, on voit naître des trucs qui sont moins désintéressés, on va dire, que ce que, ouais, que ce qu'évoquent les courants primaires de cette forme de pensée. Ensuite, en 43, l'ordonnance du 2 octobre 1943 précisément crée l'agrément jeunesse et éducation populaire. Les associations qui l'obtiennent se placent de fait sous la tutelle de l'État et peuvent obtenir des subventions. C'est le début d'une institutionnalisation, donc, et qui sera reconduite, ça c'est sous le régime de Vichy, sera reconduit après la libération. En 1959, alors qu'est créé, pardon, le ministère de la Culture sous la houlette du romancier gaulliste André Malraux, l'éducation populaire reste au sein de Jeunesse et Sport. Le nouveau ministère n'a pas pour mission l'émancipation du peuple, mais la création artistique et l'accès aux œuvres capitales de l'humanité. Ainsi, par exemple, la pratique du théâtre amateur dépend du ministère de la Jeunesse, alors que le théâtre de création passe au ministère de la Culture. Voilà, des trucs comme ça. L'idée de la pédagogie, l'idée de pédagogie de la démocratie est abandonnée par les institutions et elle se transforme peu à peu en animation socio-culturelle, beaucoup plus rattachée au loisir, en fait, qu'à la politique pure et dure, et abandonne peu à peu l'idée de s'éduquer à comprendre les rouages de notre société, à savoir... de la, pour reprendre une expression de ma chérie, de la politique non politicienne, c'est-à-dire ce qui nous intéresse vraiment et pas en fait faire de la langue de bois et dire ce que les gens veulent entendre, quoi. Et apprendre à le faire parce que c'est pas inné.
Yes. Bah, merci beaucoup pour les précisions. Et justement, tu as évoqué l'idée de la culture et la petite et la grande culture, un petit peu, qui est beaucoup développée par Franck Lepage, dont on, écoute, dont on entendra un extrait de, d'une conférence en fin d'émission. Et entre, entre maintenant et cette fin d'émission, on va parler un petit peu de ce qui se passe à Saint-Taf en matière d'éducation populaire. Et il s'agit de l'association IDÉE avec Malou Debuc qui est dans les studios.
À 18h sur Radio Saint-Afrique. Ciao Troupeau.
de retour dans les studios de Radio Saint-Taf. Bonjour Malou, comment tu vas?
Bonjour, et ben ça va, je suis super contente d'être là. Et je suis vraiment super contente aussi que t'aies eu envie de faire une émission sur l'éducation populaire à l'occasion de l'ouverture de la MEP. Parce que moi, c'est une question que je me suis pas mal posée. Qu'est-ce que c'est cette maison de l'éducation populaire? Qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on va s'en saisir? Et voilà. Et j'ai pas encore trouvé les réponses.
Du coup, ouais, t'as pas eu l'occasion d'aller jeter un petit coup d'œil, de peut-être voir un peu avec l'équipe municipale. Enfin, je sais pas comment. Alors, t'as été au courant en fait que déjà cette maison allait être construite, ouais. Faite.
Alors du coup, peut-être pour revenir sur le comment ça se fait que moi, Malou, je suis là pour parler de ce truc-là, c'est que j'ai été salarié pendant 3 ans, un peu plus de 3 ans et demi. De l'association IDÉE, donc qui est une association d'éducation populaire qui appartient à un réseau d'associations d'éducation populaire au niveau national. Donc je pense que je connais bien le sujet.
C'est pour ça qu'on t'a invité.
Ouais, et aussi que du coup, j'ai eu la chance de faire partie de l'équipe qui a monté le lieu-dit, donc le café associatif de Saint-Afrique, qui a basé sa charte sur les valeurs de l'éducation populaire. Okay. Donc du coup, en fait, quand le projet de cette MEP il est arrivé, forcément, nous, on a entendu parler, que ça soit au niveau du café, au niveau de la SOIDÉE, et on n'a pas du tout eu l'impression qu'on était les bienvenus dans le processus,
de création,
voilà, les comités de pilotage qui vont venir réfléchir à la question et se demander qu'est-ce qu'on fait de ce lieu. Sachant qu'il y a une surface qui est magnifique, ouais. Et qu'il y avait quand même un super potentiel. Ouais. Et je trouverais ça bien que même si on n'a pas été consulté et qu'on n'a pas eu l'occasion de s'impliquer dans ce projet-là pour sa création, que petit à petit on s'en saisisse et qu'il revienne au final aux gens qui font des choses à Saint-Taf. Quoi. Yeah. J'espère que ça sera le cas. Voilà. Je parle trop loin du micro, c'est ça?
Non, c'était moi plutôt qui demandais si le mien était ouvert ou pas. Je voulais, si on peut rebondir 2 secondes sur la notion d'accueil dont tu parlais, enfin, tu sentais que ni pour le lieu-dit, ni pour IDÉE, il y avait forcément un engouement extraordinaire. Il me semble que nous, à Radio Saint-Afrique, en fait, on nous aurait plus ou moins, en tant qu'association, proposé d'y participer sans vraiment dire comment. Et en fait, sur le fly, par exemple, on a vu que c'est en partenariat avec Totem, qui est une autre radio associative, qui n'est pas de Saint-Afrique. Du coup...
Voilà, c'est clair que la question de la radio dans ce processus-là, de création de ce lieu-là, moi, il m'interpelle aussi beaucoup, parce que pour moi, une radio associative, c'est l'outil idéal des mouvements d'éducation populaire, et c'est complètement la vocation d'une radio comme vous avez. Et du coup, effectivement, on aurait pu se poser la question de comment on se saisissait tous ensemble de ce lieu qui... Voilà. J'espère qu'on y fera des choses, en tout cas.
Allez, bon, on va parler un petit peu de l'asso IDÉE, du coup, pour parler vraiment éducation populaire. Et du coup, est-ce que déjà, tu peux nous présenter un petit peu cet asso, quand c'est qu'elle est née, dans quel état d'esprit et tout ça?
Alors, du coup, c'est une association qui fête ses 10 ans, là, cette année. Elle est sur Saint-Taf depuis 2008-2009. Et on a donc 2 objets qui sont l'accompagnement de porteurs de projets et organiser des événements d'éducation populaire. Déjà, moi, j'ai un peu envie de revenir sur ce qu'Antoine a dit tout à l'heure, là, sur un petit peu les mouvements historiques. Et donc, qu'est-ce que c'est que ce machin-là? Parce que c'est un mot qu'on utilise, qu'on entend beaucoup. Pour moi, c'est vraiment né du constat que l'école publique, c'est-à-dire que l'éducation lettrée et l'apprentissage de la lecture et du calcul avait pas suffi à éviter les 2 grandes guerres qu'on a connues et avait pas suffi à éviter l'Holocauste, et du coup qu'il suffit pas de savoir lire et compter pour être capable de discernement et de libre arbitre et du coup d'adapter son comportement face à des situations d'injustice. Et donc pour moi, l'éducation populaire, elle naît de ce constat-là et de se dire, alors ok, c'est bien de savoir lire et compter, mais par contre, c'est aussi super important d'être à même de construire sa propre pensée en tant qu'individu pour pouvoir avoir des comportements qui tendent plus vers la justice sociale que vers des situations de domination. En gros, c'est qu'est-ce qu'on fait des situations de domination, mais pas seulement à l'échelle de l'individu, mais aussi à l'échelle de son quartier, de sa commune et du coup de son pays. Au niveau mondial aussi, on peut l'imaginer très facilement. Donc voilà, donc pour moi, ce qu'on fait à IDÉE, c'est vraiment de cet ordre-là, c'est tenter de dire aux gens, oulala, coucou, mais vous êtes capable de réfléchir par vous-même, il vous suffit en fait d'engranger un peu des infos, de les déconstruire, de vous les approprier, et à partir de là, vous serez à même, vous, de construire vos propres solutions. Donc pour moi, c'est vraiment aussi toujours dans l'idée de l'action. C'est-à-dire, c'est pas produire de la pensée ésotérique, ou enfin voilà, juste pour écrire dans les manuels, abstract, c'est aussi vraiment pour que les gens agissent dans leur quotidien selon leur propre éthique, leur propre valeur, qu'ils auront su construire par eux-mêmes, et non pas qu'ils auront ingurgité du fait d'une propagande qui est assez efficace.
Ouais, ok. Non, pas de souci, t'inquiète. Du coup, l'idée, c'est née il y a une dizaine d'années, et dans les actions que vous menez, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples, ou bien alors des directions dans lesquelles vous travaillez ?
Ouais, alors qu'en fait, quand on la présente, on dissocie le côté accompagnement de porteurs de projets et le côté éducation populaire, événement, alors que pour moi, c'est la même chose, c'est vraiment permettre aux gens d'aller vers leur épanouissement individuel. Et du coup, ça devient intéressant de les accompagner sur leur création de projets d'activités, qu'ils soient économiques ou pas. Mais ça devient aussi, c'est aussi intéressant, et c'est pour ça que je dis que c'est la même chose, organiser des événements. Donc nous, on organise des cycles chaque année. On en a organisé un sur la démocratie, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar, comment ça marche Voilà, on en a organisé un sur le lien entre l'alimentation et le façonnage du territoire, qui s'appelait « Et si manger était un acte agricole ?» où pendant un mois, on fait venir des intervenants, mais aussi des projections, des temps un peu plus artistiques, des jeux aussi, des choses plus vers les enfants, plus vers les adultes, où on essaye sous plein de formes différentes de se poser la question. Donc là, sur l'alimentation, c'était est-ce que quand j'achète mon pain, je façonne mon territoire, mais peut-être pas que en termes économiques ou écologiques, mais aussi sociaux et aussi de dynamique de territoire. Quoi. Voilà, donc on organise des cycles. Après, on organise aussi des soirées à thème, selon des thèmes qui nous touchent et puis en fonction des rencontres qu'on peut faire au fil de la vie, quoi. Parce que après, on organise aussi des formations, un peu dans la même idée. Par exemple, on a organisé des trucs autour du théâtre forum. Parce qu'on avait rencontré des gens qui étaient touchés par cette thématique, le théâtre forum.
Ouais, on explique vite
fait. En gros, ça nous vient de l'Amérique du Sud, si je dis pas de bêtises. Et c'est le désir de mettre dans l'espace public, en scène, des situations d'oppression dans l'idée du théâtre, du jeu, et de pouvoir venir lever ces situations d'oppression et se demander comment on pourrait les traiter, quoi, pour que l'oppression diminue au plus possible.
Donc c'est un outil dans l'espace public, quoi. C'est un atelier.
Ouais, en gros, c'est des gens qui viennent dans la rue et qui jouent des scènes choquantes.
Forme de domination.
Qui mettent en scène des situations de domination dans l'espace public et où du coup, les gens, ils se disent, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Dans l'idée, je pense que tout être humain, quand il est face à une situation de domination, il est dérangé et du coup, il est interpellé et il a envie d'agir. Alors après, on vit plutôt dans un monde où on nous dit « Ouh là là, c'est pas possible d'agir, surtout ne faites rien » et voilà. Et donc l'éducation populaire, c'est l'inverse de ça. C'est « Ah bah tiens, quand vous ressentez ce truc-là, peut-être en fait vous pouvez faire quelque chose. » Et c'est vrai que plus on est armé, plus on se sent libre d'agir sur les situations de domination.
Ok, donc tu parlais de théâtre forum.
Donc on organise aussi des fois des formations sur des thèmes qu'on croise. Et on a organisé plusieurs stages d'entraînement mental. Alors, qu'est-ce que c'est que ce machin ?
Vas-y, on va essayer de prendre 5 minutes pour parler un peu en détail de ce que c'est que cet entraînement mental. Je crois que tu as participé à certains de ces ateliers, là, non ?
Ouais. L'entraînement mental, c'est donc dans l'idée de ce que je développais tout à l'heure, qu'on a constaté qu'il ne suffisait pas d'être instruit pour s'insurger devant des situations de domination. Il y a eu, au moment de la résistance, le besoin de se mettre d'accord sur, quels actes on pose face à ces situations qui sont intolérables. Et donc, il y a eu des mouvements assez transversaux au sein de la population, au sein de la résistance, où on s'est trouvé face à la situation. On avait des ingénieurs, des ouvriers, beaucoup de paysans, puisque la France était très, très agricole encore à l'époque. Ils n'avaient pas un vocabulaire commun, ils n'avaient pas trop de bases communes, et c'était un peu compliqué de se mettre d'accord sur quelle action on fait ensemble quand on n'a rien de commun. Et donc, il y a eu un désir de développer une méthode qui s'appelle l'entraînement mental, qui en fait, comme son nom l'indique, c'est une méthode. Donc ça ramène un peu de distance dans ce genre de discussion qui permet de poser, en gros, en quatre étapes, les faits, les points de vue, les problèmes, pourquoi les problèmes, enfin pourquoi cette situation pose problème et du coup comment on peut agir dessus. Et donc c'est une méthode après qui a suivi son petit chemin, qui s'est beaucoup transformé, qui s'est vu approprié par différents réseaux et mouvements d'éducation populaire. Et moi, j'ai hérité d'un des mouvements autour de l'entraînement mental qui nous vient du réseau des CREFAD, c'est le réseau auquel appartient l'association ID. Donc en fait, il y a plusieurs cycles de formation, hein. On dit qu'il y a trois niveaux, c'est des formations de 4 à 5 jours, et voilà. Et en trois stages, on estime que tu es à même après ensuite de le transmettre.
De le transmettre, ok. De faire des ateliers d'entraînement mental comme tu as pu en faire.
Voilà. Ouais. Alors sachant que du coup moi j'ai pas fait les trois cycles, mais je me permets quand même justement de faire des ateliers.
Je crois que c'est une notion un peu aussi qu'il y a dans l'éduc-pop, c'est qu'en fait on n'a pas besoin d'être un grand savant pour pouvoir transmettre son savoir qu'il soit chaud ou froid, et que du coup en fait n'importe qui peut participer.
En tout cas, sur l'éducation populaire plus généralement, c'est clairement une idée qui est revendiquée un peu tout au long de.
Tout à fait. Quand on dit, il y a beaucoup de définitions de l'éducation populaire qui sont tournées autour de l'échange de savoir. C'est vraiment considérer tout individu comme détenteur de connaissances et de savoir, et donc en ça déjà de le gratifier et de venir lui permettre de partager son savoir et de cette manière d'enrichir le groupe, quoi. Donc moi, forte de ça forcément. Et puis comme j'aime, en fait, le mot entraînement mental, il est assez dur,
il est assez rude un peu.
Voilà,
comme ça,
hein. il y a un côté un peu élitiste et tout. Et
sportif, quoi. C'est vachement dur ce truc.
Après, ça reste quand même l'idée, hein, c'est que pour avoir un corps efficace, il faut s'entraîner. Pour avoir une pensée un peu efficace, il faut s'entraîner. On nous l'apprend pas, et c'est certainement pas l'école publique aujourd'hui qui nous l'apprend. Mm-hmm. Et voire même, on essaye de faire en sorte que tu sois le moins efficace possible là-dessus. On devient bien feignant, et donc c'est vrai qu'il y a un côté sportif. Mais du coup, ce mot-là, moi, il me dérangeait pas mal.
Ouais.
Parce que quand j'ai découvert la méthode, ça a été ma petite révolution intérieure qui a transformé ma vie. Et je me disais, mais merde, les gens, ils peuvent pas avoir envie de se tourner vers ça.
Si ça s'appelle comme ça
et que ça reste élitiste avec des gens qui sont passeurs d'entraînement mental après 2 années de formation. Donc moi, je me suis dit, j'en ai compris, mais en tout cas, j'ai envie de le partager.
Ouais.
Et donc, je propose des ateliers d'entraînement mental une fois par mois au lieu dit. Donc on l'a fait toute l'année dernière, là septembre on n'a pas rattaqué encore, je pense qu'on rattaquera qu'en novembre en fait, parce que la rentrée...
C'est... Bah le temps de s'y mettre.
Voilà,
le temps de s'y mettre. Bon alors du coup, en tant qu'habitant de Saint-Aff, qu'est-ce que ça peut apporter en tout cas de venir à l'asso ID? Qu'est-ce qu'on peut en attendre, tu vois? Quels peuvent être les liens avec la population, je sais pas, enfin...
Mais alors moi j'y vois pas mal de choses. Enfin, dans cette question-là, qu'est-ce que ça peut apporter ? Ben, je pense que, en tout cas, c'est un espace dans lequel on se pose des questions et on essaye de comprendre le monde qui nous entoure et comment il fonctionne. Et aussi, on essaye vachement de repérer les leviers sur lesquels nous, on peut agir. Il y a eu notamment, par exemple, un groupe autour des monnaies locales complémentaires qui a travaillé cette question-là. Donc, ça n'a pas abouti. Mais ça n'empêche pas que ça aboutisse en d'autres moments. Et en tout cas, on a des leviers certains. Et cet exemple-là, il est assez puissant dans le monde capitaliste dans lequel on est.
Ouais, puis ça ouvre des horizons, des idées, des possibles. Même si le projet n'a pas abouti, en tout cas, l'idée est toujours là et elle germe dans la tête de certains. Quoi.
Ouais, puis ça prend du temps, puisqu'on sait que les monnaies complémentaires, elles sont basées sur les phénomènes de confiance. Et que du coup, peut-être ça pourrait se faire. Moi, je reste convaincu, en tout cas, qu'on a complètement le potentiel sur le Saint-Africain, par exemple, pour mettre en place une monnaie complémentaire qui nous permette d'extraire de la spéculation énormément d'échanges qu'on réalise, en fait, quotidiennement, et qu'on en a carrément les moyens. Après, c'est compliqué de s'organiser, c'est compliqué de se mettre d'accord. Et voilà, mais par contre, donc on peut trouver ça à ID, par exemple, des espaces de réflexion comme ça.
C'est à ce moment-là que vraiment ça prend son sens. C'est avant tout aussi un lieu de ressources où on trouve énormément de documentation si on a une question ou un projet.
Si on a une question ou un projet, puis si on a envie de se poser des questions et qu'on a envie de se dire, moi, à mon échelle, qu'est-ce que je vais
pouvoir faire
que je vais faire dans ma commune pour. améliorer ce bazar, quoi, parce que, parce que c'est le bazar, quoi.
Bon, et du coup, peut-être que tu peux nous donner quelques infos pratiques, genre où on vous trouve, un petit calendrier des prochaines actions, s'il y en a qui sont en train d'être menées.
Alors, où on nous trouve, on se trouve dans le local, on est en face du lieu-dit, aux 2 rue Michelet, à Saint-Affrique. Donc on est assez facile à trouver. On a la chance, Antoine évoquait tout à l'heure là, sur l'idée des locaux partagés. Alors moi j'ai un petit quai sur le côté, c'est pour faire des économies, même si c'est vrai. C'est pas que pour ça. Et du coup, en fait, ce lieu-là, donc il y a le 2 rue Michelet et il y a le 5 bis rue de l'Industrie, mais qui sont face à face. Là, en fait, on est en train, petit à petit, de remplir tout l'immeuble. Il ne nous manque plus qu'un appartement, et ça, il y en aura tout l'immeuble. Mine de rien, dans ces locaux, il y a l'association du café du lieu-dit, il y a l'entreprise La Table du lieu-dit, il y a une bouquinerie, une disquerie, l'association Idée, l'association Relier, qui est un réseau national aussi. Il y a un groupement d'employeurs qui permet de salarier un comptable et une personne qui réalise des fiches de paye et des déclarations fiscales. Je rigole parce que c'est un peu redondant, mais c'est bien pratique de les avoir.
Mais avec qui on travaille nous aussi parfois.
Il y a aussi Paysans d'Aveyron, si je dis pas de bêtises, et il y a aussi des permanences de coopératives d'activité et d'emploi qui nous viennent de l'Hérault.
T'es en train de me dire que la maison d'éducation populaire existe déjà.
Pour moi, c'est pas qu'elle existait déjà, parce que en fait, de par notre positionnement aussi politique, parce que je crois que ça, on est un lieu où, qu'on le veuille ou non, on a une position politique, c'est-à-dire qu'on est clairement à gauche, et puis. Voilà, on est clairement contre le capitalisme, hein, pour moi. Donc il y a des gens que ça rebute forcément. Donc on peut pas relier tout le monde. D'ailleurs, est-ce qu'on en a envie? Je sais même pas. Moi, j'en ai pas vraiment forcément. Enfin, personnellement, je parle pas au nom du groupe. Mais du coup, par contre, ce lieu, c'est pour moi, c'est en train de devenir un tiers-lieu, ce qu'on appelle les tiers-lieux, qui est le mot qui est très à la mode. En tout cas, on n'y fait pas que des économies. On y fait aussi énormément de rencontres. Il y a beaucoup de gens qui arrivent au café en se disant « Tiens, j'arrive sur Sainte-A, je suis installé là, j'arrive prof à la Casotte. » Enfin voilà, pour diverses raisons. Je vais découvrir c'est quoi cet endroit. Puis en fait, ils rencontrent des gens, ils rencontrent d'autres associations. Et après, derrière ça, ils font des choses. Et qu'en fait, c'est vraiment un espace de rencontre, d'échange qui nous permet de vivre plein de trucs. Donc du coup, on a la chance d'être là-bas. Ça, c'est carrément chouette. On a à la fois des bureaux qui sont en vitrine et aussi un espace de travail. Parce que mine de rien, on vit de la subvention et donc on a besoin de bosser un peu les dossiers, d'être au calme. Donc voilà. Après,
vous avez un Facebook, un site internet,
le thème de l'année. En fait, c'est cette année comme grand projet. Vous travaillez dans quel cycle en ce moment?
Je sais même pas.
C'est l'interculturel,
ouais. Mais du coup, en fait, cette année, on fait pas un cycle comme on le fait les autres années. C'est-à-dire que d'habitude, on fait vraiment un mois entier. Là, c'est un peu plus dispatché tout au long de l'année. Il y aura eu plein d'ateliers divers et variés.
Mais il y a Prune dans les locaux de Boulevard Michelet qui peut vous accueillir et répondre précisément à toutes ces petites questions.
Alors par contre, sur la question du site internet, j'ai l'immense fierté de vous dire qu'on n'a pas de site internet, qu'on ne veut pas avoir de site internet et que je pense qu'on n'en aura pas. Enfin, pour ma part,
Troupeau.
Je pense pas qu'en tout cas les gens qui viennent chez nous, on les rencontre par ce biais-là. Okay. Et si ça nous prive de gens, tant pis. Par contre, il y a nos coordonnées sur le site du réseau des CREFAD. Donc voilà. Mais vous ne trouverez pas grand-chose de plus que ça. Après, au niveau des animations, je ne sais pas exactement ce qui est prévu, parce que j'y suis de moins en moins impliquée. Moi, je suis bénévole et j'interviens plus que sur des formations. J'anime plus grand-chose en termes d'ateliers, à part les ateliers d'entraînement mental. Donc ne pas hésiter à se tourner vers Prune. Je sais qu'il y a une formation de l'idée au projet qui va avoir lieu là, dans l'hiver, donc avant fin décembre en tout cas, et qu'il y a au moins une autre formation sur l'écriture du projet, un truc comme ça.
Ouais. Ok, ça marche, merci beaucoup. Des trucs
plaisir.
À rajouter?
Merci
ou,
à
je
vous.
Je sais pas, on a oublié quelque chose?
Moi j'ai toujours des tonnes de trucs à dire sur le sujet, quoi. Mais en tout cas, cessez de croire que réfléchir ça suffit. On n'est pas des miroirs et voilà, on a besoin nous de s'approprier les informations qui nous arrivent comme ça par vague continue, et puis de déconstruire un peu tout ça et nous demander nous en tant qu'individus qu'est-ce qu'on a envie de faire pour aller vers un monde plus juste. C'est peut-être un peu cucu, mais moi j'y crois.
Tout doit changer. Tout. 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 Tout.
Tout, 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 tout doit changer.
On s'était mis à organiser des colloques pour expliquer aux gens qui font de la démocratisation culturelle, donc qui balancent de la culture sur les pauvres, là, pour leur expliquer que c'est pas ça qu'il faut faire. Que ça, c'est l'idée de la démocratisation culturelle, c'est un thème de droite. Et ce qu'il faut faire, c'est de l'éducation populaire. C'est pas du tout, c'est même le contraire. Et alors simplement, comme on s'attendait pas à ce qu'ils nous croient, parce qu'on leur dit, c'était leur métier, on leur disait, écoutez, on comprend que c'est difficile à avaler, mais si vous nous donnez un peu de temps, on va vous expliquer. Simplement, il va falloir être patient parce qu'il faut maîtriser plusieurs hypothèses. Vous voyez ? Comme un plant de tomate. Et alors, les types, ils se méfiaient. Hein. Ils disaient, ouais, long comment, tu veux dire On dirait, en fait, il faut partir de la révolution. Tu dis, oh non, on est si loin, on ne peut pas commencer un peu avant. On disait, non, il faut commencer à la Révolution. Puis en plus, la Révolution, pas la Révolution française, la Révolution anglaise, 1750. Mais, alors, vous imaginez, ils sont 100 dans une salle. Et alors nous, on commençait l'explication, donc... Donc le plan de tomate, on leur expliquait que c'est la Révolution anglaise, c'est-à-dire la révolution industrielle. Alors, on expliquait ce qu'on sait tous maintenant, à savoir qu'une innovation technologique majeure, en l'occurrence la vapeur, aujourd'hui c'est informatique, c'est pour ça qu'on est de nouveau barré dans une révolution, mais c'est pas le sujet, et donc la vapeur allait d'un seul coup complètement modifier la façon de produire en permettant de produire beaucoup plus et donc d'accumuler et donc de transmettre et donc modifier les rapports de production qui allaient eux-mêmes modifier les rapports sociaux. Alors, il y a 2-3 marxistes qui suivaient encore à peu près dans la salle à ce niveau-là. Alors, les autres ouais, commençaient à reculer gentiment vers le Kir Royal. Ouais. Les vrais fauchetons, on les voyait. Hein. Mais bon, comme il y en avait 100, bon, on pouvait en perdre au moins 2-3. Donc on expliquait effectivement qu'avant il fallait 30 personnes pour moissonner un champ, après il en faut une, donc les 29 autres, qu'est-ce qu'elles deviennent, etc. Et puis surtout on expliquait que la révolution, la vraie révolution, le changement de civilisation, c'est que pour la première fois dans l'histoire de la planète, dans ce coin de la Terre qu'est l'Europe occidentale, il va être possible que ma vie soit meilleure à la fin de ma vie qu'au début de ma vie, ce qui est complètement nouveau, et peut-être que la vie de mes enfants sera meilleure que ma propre vie. Théorie de l'ascension sociale. Et donc pour ça, il faut faire péter le système qui interdit de monter, hein, c'est-à-dire une société par ordre. Et donc, vous connaissez la deuxième branche de la tomate, évidemment, c'est la Révolution française, la Révolution politique, donc c'est une société où on va doter les individus du droit, de droit, et notamment du droit d'aller se faire exploiter où ils veulent, quand ils veulent, donc les droits de l'homme. Je vous le fais vite, hein, j'ai pas le temps. Le premier des droits de l'homme étant le droit de propriété privée des moyens de production. Donc on expliquait ça, on expliquait, etc. Et donc, alors, la troisième branche de la tomate, vous voyez, tout de suite, ça vient tout de suite. C'est l'école, c'est-à-dire c'est la culture. Alors la culture arrive là, c'est pour ça qu'on est obligé de repartir la révolution. Et donc on expliquait la culture comme nouvelle légitimation des inégalités. Alors là, il y en avait 10 qui étaient tout, 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 tout. Qui allait boire un kir, il en restait 90. Et oui, parce qu'avant, si vous voulez, l'explication des inégalités, c'était Dieu. D'accord ? C'est une société de droit divin. En fait, si vous étiez inégal, c'est parce que Dieu le voulait. Bon. À l'époque, c'était plausible. Alors, à partir de là, si vous êtes là et qu'il y en a un qui est là, c'est parce que vous n'avez pas bien travaillé à l'école. Ouais. C'est un mensonge total, hein. Il va falloir attendre 1962, hein, Pierre Bourdieu, pour démonter cette foutaise totale. Tu sais, hein. C'est toute la société qui monte avec la culture, hein. C'est pas, y a pas ça. Alors si vous allez me dire, j'en connais, oui, 1%. 1% qui font des sauts de classe, hein. C'est-à-dire 1% de fils d'ouvriers à l'université en 2007, alors qu'il y a 30% d'ouvriers en France. C'est l'INSEE qui nous l'apprend. Et donc on expliquait ça. Alors on expliquait que cette, si vous voulez, que ce qui va me faire accepter les inégalités, c'est de croire que je pourrais être en haut si j'avais bien travaillé à l'école. Donc en fait, je pourrais être médecin, avocat, ambassadeur. Vous voyez, d'ailleurs, avec le boulot que fait l'école, il n'y aurait plus que des médecins. Il n'y aurait plus un seul ouvrier. Et donc voilà. Alors, on expliquait la branche suivante de la tomate. C'est qu'on peut croire à ça dans une société de plein emploi, mais que ça devient difficile à avaler dans une société de chômage structurel de masse. Voilà. Il en reste 80. Oui, parce qu'évidemment, dans une société où il y a du boulot pour tout le monde, hein, vous avez pas d'adolescents d'origine immigrée avec des lacets défaits qui traînent dans les rues, d'accord ? Tout le monde est au boulot à 18 ans, évidemment, dans cette société-là, vous pouvez croire que si vous êtes là et qu'il y en a un qui est là, c'est parce que vous n'avez rien foutu à l'école, mais que si vous aviez fait la même chose que lui, vous seriez là. Tout le monde peut être ambassadeur, hein. Ça s'appelle l'égalité des chances. Hein. La République garantit que pour le lièvre comme pour la tortue, la ligne de départ est la même. Et donc voilà. Alors dans une société de chômage structurel de masse, évidemment ça ne marche plus. Ça ne marche plus. C'est-à-dire que vous avez bac plus 3, vous êtes caissière à Auchan, vous avez une licence, vous n'avez pas de boulot, là, attendez. Truc qui marche pas. Donc effectivement, on perdait beaucoup de monde. On expliquait donc la théorie de l'excès de culture. La théorie de quoi ? Tu peux redire ça une deuxième fois ? Ben oui, parce que nous, on est tous formatés à l'idée qu'on manque de culture et que c'est pour ça qu'on est en bas de l'échelle sociale, ou en tout cas au milieu ou pas en haut. C'est ça la grande arnaque. Hein. En fait, donc on expliquait qu'on a tous, qu'il y a beaucoup trop de culture par rapport à la capacité du système dans l'organisation du travail à nous laisser exploiter nos capacités, nos initiatives, notre intelligence. D'accord ? Nous sommes tous en situation d'excès culturel par rapport à l'organisation du travail. Bon, vous connaissez le truc très bien, hein, c'est la secrétaire trilingue et on lui laisse utiliser une seule langue pour coller des timbres toute la journée. Et donc on expliquait ça, et alors on expliquait qu'une société de chômage structurel de masse, évidemment, ça modifie l'action publique. Ouais. Bien sûr. Oui, bah facile. Ça, c'est facile, ça. Ça, on expliquait. L'action publique dans une société où tout le monde est au boulot, ça consiste à faire croire à la démocratisation culturelle. C'est tout. C'est-à-dire, ça consiste à distribuer de la richesse économique sous forme de richesse culturelle pour produire de l'ascension sociale. Et donc, ça consiste à fabriquer des théâtres, des bibliothèques, des piscines, des MJC, des théâtres, des médiathèques, des bibliothèques. Alors, évidemment, quand vous avez 10 millions de personnes rayées des cadres, hein, dans 4 millions nets plus 6 millions de précaires, etc., etc., là, le coût des médiathèques et tout ça, ça commence à devenir lourd. Et donc, l'action publique va changer de nature et elle va se mettre à identifier des catégories de population supposées fragilisées au regard de leur capacité à s'insérer sur le marché de l'emploi. Et donc, elle va essayer de faire croire à ces gens-là que c'est de leur faute s'ils n'ont pas accès au marché de l'emploi, parce qu'ils sont trop ceci ou passé cela, donc ils manquent de culture. Ça s'appelle des dispositifs. Donc on expliquait ce que c'est qu'une action publique par dispositif. Au revoir. Il doit en rester 50, quoi. Mais à 50, on continue d'expliquer, vous voyez ce que je veux dire. On baisse pas les bras. Et donc une action publique par dispositif. Alors, donc vous savez qui a un avenir aujourd'hui en France, hein, c'est-à-dire qui a un contrat de travail à durée indéterminée. Il paraît que ça va changer bientôt. Et donc, c'est-à-dire qui peut faire des enfants, faire des crédits, bref. Alors, ce sont des hommes, ils ont entre 30 et 50 ans, ils sont d'origine française sur deux générations, et ils sont bien qualifiés, mais pas trop. Et alors tous les autres, donc la majorité de la population, hein, sont considérés comme une population à risque. Les femmes, donc massivement plus qualifiées que les hommes, mais qui ont moins accès aux mains. Les trop jeunes, donc moins de 30 ans aujourd'hui. Hein. Les trop vieux, plus de 50 ans aujourd'hui. Hein. Ça m'arrange pas, je viens de m'accrocher à un handicap. Et puis les gens issus de l'immigration, c'est là tous ces gens-là. Donc, alors quand vous vous appelez alors Fatima, que vous avez 23 ans, que vous n'avez que un deug et que votre père est algérien, vous avez 4 handicaps au regard de votre insertion sur le marché de l'emploi. Mais c'est pas grave, pour vous, on va faire des dispositifs, donc pour vous aider, n'est-ce pas? Et donc des dispositifs pour les jeunes, pour les 16-18, pour les 18-25, pour les femmes, pour les gens issus de l'immigration, pour les aider à être moins jeunes, moins vieux, moins femmes, moins arabes, vous voyez, donc bon. Et alors, on expliquait qu'une action publique par dispositif, évidemment, ça ne marche pas. Logique, puisque le problème n'est pas dans le symptôme, il est dans la cause qui est l'organisation du travail dans l'entreprise. Mais ça, Patouche, premier des droits de l'homme. Et donc on expliquait donc que faire croire aux gens que c'est de leur faute. Et donc, bah, et alors, on expliquait que ça met en cause. Alors, bon, je suis l'homme de la tomate. On arrive, hein. On arrive. Je vous rappelle que l'idée, c'est de parler d'éducation populaire. Et donc on expliquait que, branche suivante de la tomate, qu'une action publique par dispositif, elle met en crise la démocratie de représentation. Wow. 10 au qui. Ah oui, c'est, la démocratie de représentation, c'est, ça consiste à se faire élire pour mettre en œuvre des politiques publiques pour régler les problèmes. C'est relativement simple. Alors évidemment, là vous avez la gauche, la droite, la gauche, la droite, la gauche, la droite. Nous allons déclarer la guerre au chômage. Alors au bout d'un moment, les gens se disent « Est-ce qu'on pourrait pas essayer autre chose ?» Et alors ça tombe bien, puisque branche suivante de la tomate, vous avez des repreneurs. Vivendi, c'est le privé. Donc on expliquait, n'est-ce pas, la privatisation des politiques publiques. C'est-à-dire, effectivement, on expliquait qu'avant, ce qu'on vous donnait sous forme de prestations, de salaires, de droits, de services publics, on va vous le vendre maintenant. Et donc, alors voilà. Et alors là, on expliquait que ça. Alors là, on perdait beaucoup de monde. Alors, ça, c'est un des trucs les plus durs à comprendre, parce qu'on expliquait que la privatisation des politiques publiques, ça s'apparente à une attaque massive contre le salariat. Putain, le mec. Mais qu'est-ce qu'il dit? Oui, non, mais parce que le salaire, c'est parce qu'on n'a jamais le temps de réfléchir à ça, puis on n'a pas passé notre vie à lire des bouquins, mais les gens croient tous que le salaire, c'est l'argent qu'on vous donne en échange de votre travail. Non. Ça, c'est la moitié du salaire. C'est ce qu'on appelle le salaire direct. Non, le salaire est constitué aussi de l'argent qu'on donne à d'autres que vous en échange de votre travail, n'est-ce pas ? C'est-à-dire le salaire maintenu pour des gens qui ne travaillent plus, soit parce qu'ils sont trop vieux, c'est l'assurance vieillesse, malade, c'est l'assurance maladie, ou au chômage, c'est l'assurance chômage. Et alors évidemment, la grande astuce va consister à vous vendre ça. Hop, retraite par capitalisation, machin, hôpital privé, très bien. C'est comme si vous piquiez du salaire. Donc on expliquait ça, puis on expliquait que c'est ça qui avait empêché la révolution en France au tournant du siècle, quand ça commençait à péter en Russie et en Allemagne. Et donc s'il n'y a pas eu de révolution en France, c'est parce qu'on le patronat a attaché des droits de ce type-là au fait de travailler. C'est ça qu'il est en train de nous enlever. Moi, ça m'arrange parfois, on verra bien. Et il restait quoi ? Il restait 20 Pékins dans la salle. Et là, on arrivait, on touchait au but. Donc, on expliquait que si on veut empêcher ça, on disait si on ne veut pas de cette société-là, et ça, c'est donc pas de balancer de la culture sur la tête des pauvres pour leur raconter qu'avec ça ils vont trouver du boulot, hein, c'est pas ça le problème, non, il faut faire de l'éducation populaire, c'est-à-dire du travail de nature culturelle avec un petit c, c'est-à-dire en gros il faut permettre de l'explication, du récit de ce que les gens vivent dans les dispositifs, soit parce qu'ils en sont des usagers ou des agents, etc. Et puis avec ça fabriquer, refabriquer de l'analyse politique, n'est-ce pas, et puis recomprendre et redétricoter tout le système jusqu'à la révolution, évidemment. Alors là, il devait rester quoi, un mec. Et là, en général, on l'achevait. On l'achevait avec la définition de la démocratie de Paul Ricoeur. Parce qu'on disait, et alors c'est incroyable, ça tombe bien, parce que cette définition de l'éducation populaire, il se trouve que c'est la définition de la démocratie de Paul Ricoeur. Puisque évidemment, si on demande aux gens c'est quoi la démocratie, vous avez la moitié qui répond une tartouillerie du genre c'est le pouvoir du peuple par le peuple, avec le peuple autour du peuple. Oui, bon, d'accord. Et puis vous avez l'autre moitié qui a jamais réfléchi, qui dit la liberté d'expression. Oui, d'accord. Non. Non, plus compliqué que ça, la démocratie. Non. Et donc Paul Ricoeur dit est démocratique une société qui se reconnaît divisée, c'est-à-dire traversée par des contradictions d'intérêts, et qui se fixe comme modalité d'associer à part égale chaque citoyen dans l'expression de ses contradictions, l'analyse de ses contradictions, la mise en délibération de ses contradictions en vue d'arriver à un arbitrage. Y a quelqu'un ? Il reste quelqu'un ? Y a personne ? Il n'y avait personne. Il n'y avait plus personne. J'étais tout seul. Ils étaient tous repartis, balancés de l'art contemporain sur la tête des pauvres dans les banlieues, torchés au kir. Je comprends pas pourquoi ils sont partis. C'est ça. La révolution industrielle, tac, les droits de l'homme, la révolution politique, hop, l'école, la culture, la fin du plein emploi, pof, la mise en crise des politiques publiques, tac, la privatisation. Si, c'est ça. Éducation populaire comme travail de la culture dans la transformation. Tout seul.
J'ai perdu ma tribu, tous mes frères et mes sœurs, que sont-ils tous devenus ? Et surtout, pourquoi ne me cherche-t-il pas ? Je trouve ça ingrat, pas sympa. Je suis un bébé éléphant égaré. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me rechercher ? J'ai bien peur qu'il se soit suivi dans le précipice, au fond des profundis. Et moi, qu'est-ce que je deviens dans tout ça ? Je me sens tout éreintant. Je suis un bébé éléphant égaré. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me rechercher ? Je ne me sens pas chez moi dans ces jungles inconnues. À ma vue, tous se sont encourus. Personne ne sait d'où je suis. Je suis un mal blanchi, impoli. Je suis un bébé éléphant égaré. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me chercher. Hey. Quelle tribu voudrait m'adopter? Je suis un égaré, sans carte d'identité. Ok, je me plierai à vos coutumes, si vous acceptez mon volume. Je suis un bébé éléphant égaré. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me rechercher en...
Ciao Troupeau, chaque lundi à 18h sur Radio Centrafrique.
Et voilà, c'était Ciao Troupeau, c'est même la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Plein de trucs.
Merci à Ken, merci à toi.
Ben oui, ben merci à toi Antoine.
Et chouette la petite prise de son dans la rue du marché du guitariste Manouche qu'on
mais
a entendu
avant. Oui, c'était le guitariste Manouche du marché, c'était samedi. On vous avait pu aussi entendre Senbei avec le titre Acura, c'est une exclue qui sort en janvier 2018. Et enfin Dick Hanegarn avec un bébé éléphant. Voilà, merci beaucoup.
Et le son, bien sûr, c'était Franck Lepage, hein, Culture, première,
oui, bien éducation sûr.
Populaire, monsieur, ils n'en ont pas voulu.
Ils n'en ont pas voulu, c'était un extrait d'un petit quart d'heure. Voilà, vous pouvez retrouver la conf gesticulée en complète sur Internet,
ouais.
Sur YouTube, pour ne pas citer cette magnifique plateforme de vidéo. Merci beaucoup, Malou, d'être venu.
Eh ben, merci beaucoup de m'avoir invité, c'était un plaisir.
Ben voilà, un petit salut à Prune et Anneli, si elles nous écoutent, elles auraient pu être à ta place. Ça aurait fait pareil.
Ça aurait été chouette.
Et ben voilà, nous, plus qu'à nous dire, on est rediffusé la semaine prochaine à la même heure, même fréquence, donc 18h lundi soir.
Yeah, yeah.
Et puis le prochain direct, c'est dans 15 jours sur Radio Saint-Taf. Peut-être le mot de la fin, Antoine, vas-y, je te laisse cet exercice.
C'est avec grand plaisir que je participerai à nouveau avec toi à Ciao Troupeau la semaine prochaine.
Oh, c'était émouvant.
Toutes les autres. Ah non, mais parce que oui, je suis vraiment avec toi dans le studio, ouais, c'était la première.
Carrément. Et bien voilà.
Allez, à bientôt.
Ciao, ciao, ciao.
Dans 15 jours.
Ciao.
Voilà, l'émission est terminée. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.
Ciao, ciao, le troupeau, je me bats. Je m'en vais broutiller autre part. Ciao, ciao, le troupeau, je me bats. Je m'en vais broutiller autre part.
Il est l'heure de quitter le troupeau et de rejoindre la meute.
J'ai jamais squatté la routine et le manque de vie qui se tasse. Sac à dos à arrache, allez hop, je me casse. Et je vais pas passer ma vie prisonnière de la leur. Quitte à galérer ici, je m'en vais galérer ailleurs.
Ciao Troupeau, chaque lundi à 18h sur Radio Centrafrique.
Ciao Troupeau.
Now open your eyes and switch off this recording. And prepare yourself for the next section on Program 2.